La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Cette semaine, les premiers présidents de la Cour de cassation et des cours d'appel ont publié une déclaration commune pour dénoncer un affaiblissement inédit de la justice. C'est un fait politique majeur, sans doute trop peu considéré comme tel par les médias, et il intervient dans un contexte singulier qui voit chaque jour le fossé se creuser davantage entre le monde du droit, au sens le plus large du terme, et un gouvernement qui plus est un gouvernement de gauche. Du jamais vu, sans doute, depuis la guerre d'Algérie. Ainsi, ce sont aussi 450 universitaires, dont une grande majorité de juristes, qui se sont associés à la requête de la Ligue des droits de l'homme devant le Conseil d'État pour demander la suspension de l'état d'urgence. Autre signe plus récent encore du climat tendu entre monde de la justice et exécutif, l'arrivée place Vendôme comme garde des Sceaux d'un spécialiste de la sécurité, M. Urvoas, et plus encore le choix par ce dernier de nommer cette semaine comme directeur de cabinet un homme du ministère de l'Intérieur, ancien directeur adjoint du cabinet de Manuel Valls lorsqu'il était place Beauvau. C'est dans ce climat singulier, tendu, qu'il m'a paru particulièrement intéressant de revenir sur un livre paru il y a quelques semaines dans la collection Folio. C'est un texte inédit, « À quoi nous sert le droit ?» et c'est un livre de Jacques Comaille qui est aujourd'hui mon invité. À la suite dans les idées. Jacques Comaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Cachan.
C'est ça.
Vous travaillez sur le droit depuis de longues années, d'un point de vue qui est celui des sciences sociales. Et d'ailleurs, l'articulation du droit aux sciences sociales est vraiment au cœur du livre que vous publiez, donc en folio, « À quoi nous sert le droit ?». On va y venir. Mais je voulais commencer, comme vous l'avez remarqué, par cette situation d'actualité qui me semble assez singulière, assez inédite. Ce fossé qui se creuse chaque jour dans un contexte qui est celui post-attentat, de la mise en vigueur d'un état d'urgence. On s'aperçoit que les professionnels du droit, entendus au sens large, mais aussi tous ceux pour qui le droit est une ressource importante, et notamment des militants associatifs ou des intellectuels, des universitaires, se sentent affaiblis, menacés par un certain nombre de décisions politiques, et alors même que la gauche est plutôt habituellement en relation étroite avec cet univers, eh bien on voit le fossé se creuser. Alors je serais curieux d'avoir votre analyse. Comment vous, qui regardez le droit depuis longtemps et qui regardez plus généralement la place du droit dans la société et dans le politique, vous observez cela ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que la situation est tout à fait inédite, exceptionnelle. Inquiétante. Et si vous permettez, je ferai référence à un très beau travail qui a été publié par Dominique Linhart et Cédric Moreau-de-Bellin, qui, à partir d'un travail sur la police, font une analyse précisément des mutations actuelles en matière de justice et en matière de police. Et en gros, ils considèrent que la montée des extrémistes constitue un phénomène transnational qui remet en cause, disent-ils, le partage entre ce qui relève de la guerre et ce qui relève de la paix. Et on l'observe, effectivement, dans le fonctionnement des institutions policières, dans la production du droit pénal, on est au cœur là du sujet, et de ses mises en œuvre par les institutions judiciaires. Donc, jusqu'à poser, effectivement, la question des nouvelles formes de l'état de droit. Donc, voilà, je crois qu'il y a un glissement incontestable, et effectivement, ce glissement justifie, en quelque sorte, l'alerte lancé par les hauts magistrats, par la magistrature, par les avocats également, donc par les professionnels du droit. Ce qui serait souhaitable, et ce qui correspond aussi à la thèse que je tiens dans le livre, c'est qu'il conviendrait que la mobilisation aille au-delà de l'institution judiciaire, au-delà des professionnels du droit, et implique les citoyens. On est dans une situation dans laquelle, si on se réfère au sondage d'opinion, les citoyens adhèrent plutôt à cette mise en place d'un État sécuritaire. Et je crois qu'il faudrait, il y a un travail incontestable à faire, d'alerter en quelque sorte les citoyens sur les dangers de ces glissements que nous observons actuellement.
D'autant que si on pense au travail que vous citiez de Dominique Linhart mené sur la situation allemande dans les années 70, il insiste beaucoup sur l'aspect bénéfique qu'a eu la critique dans ce pays des politiques sécuritaires mises en œuvre dans un premier temps face au terrorisme de la fraction armée rouge au début des années 70, parce que cette critique a permis d'améliorer non seulement les libertés publiques, mais elle a permis aussi d'améliorer l'efficacité de la politique de sécurité. Comme quoi, il ne s'agit pas, contrairement peut-être à ce qu'on nous laisse entendre parfois, d'un jeu de vase communicant entre sécurité et liberté, mais qu'une politique de sécurité a beaucoup à gagner du respect des libertés publiques.
Tout à fait, oui, absolument. Et puis, a beaucoup à gagner d'une implication des citoyens. Et là, on rejoint aussi une thèse que je tiens dans le livre, qui est l'implication des citoyens dans la conception, dans la formulation et dans la mise en œuvre du droit. Et c'est probablement un enjeu très, très important pour l'avenir. Il l'est pour le droit, il l'est plus largement pour le politique.
Alors, le droit, justement, c'est un objet particulier pour un sociologue, parce que c'est à la fois un ensemble de pratiques sociales, mais c'est aussi le droit, dans le monde académique en tout cas, une discipline, un mode de connaissance de cet univers social dans lequel il déploie ses propres pratiques. Alors, du coup, c'est pas évident de construire une épistémologie, un regard sur quelque chose qui est lui-même une épistémologie, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. C'est la difficulté qui est la mienne depuis que je suis un peu par hasard entré dans le droit. C'est le droit à cette extraordinaire particularité pour les sciences sociales, comme le dit très très bien l'anthropologue Louis Andrieux, d'être à la fois une pratique mais qui se veut en même temps une science, c'est-à-dire de pouvoir dire la vérité sur lui-même. Et donc qui va concevoir je dirais une annexion des disciplines de sciences sociales. L'anthropologie devient l'anthropologie du droit, la philosophie devient la philosophie du droit, l'histoire devient l'histoire du droit, et ne laisse pas de place effectivement à une possibilité d'un regard de sciences sociales qui soit en distance par rapport au droit. Donc c'est le pari que je tente depuis longtemps. Je dois quand même rendre hommage à Jean Carbonnier, puisque le hasard a fait que je suis rentré dans le droit par lui, puisqu'il avait besoin d'un collaborateur pour mettre en place sa sociologie législative, c'est-à-dire préparer, pour dire les choses un peu rapidement, scientifiquement, les lois dans tout le courant de grand courant de réforme du Code civil des années 70-80.
Professeur de droit atypique, hein, flexible droit, atypique, oui, très influent, mais
à la fois grand civiliste, donc grand juriste, et en même temps ouvert incontestablement aux sciences sociales, d'une extraordinaire culture sur les sciences sociales, et puis à la fois ayant une conception, je dirais, très particulière de l'usage de la sociologie, de sa sociologie législative, mais en même temps, il m'a laissé, développer ma conception qui était, inspirée par les leçons que j'avais reçues des grands maîtres, c'est-à-dire Bourdieu, Aron, Gurwitz, dans la période d'or de la Sorbonne à ce moment-là. Et donc, effectivement, c'est une perspective, un positionnement qui n'est pas évident, mais qui me paraît extrêmement important parce que on redonne au droit la fonction qu'il avait chez les grandes figures fondatrices. C'est-à-dire, le droit est un objet particulièrement révélateur, susceptible de révéler particulièrement les transformations des sociétés. Et la fin du 19e, début du 20e, dans les grandes transformations de la révolution industrielle, les grands auteurs utilisaient le droit comme un analyseur de ces transformations.
Vous pensez évidemment à Max Weber ou à Émile Durkheim.
À Émile Durkheim, tout à fait. Et en même temps, le livre, je crois, en témoigne. J'ai un respect à l'égard du droit, j'ai un respect à l'égard de la pratique du droit, mais j'ai un positionnement qui se veut à distance par rapport à l'univers juridique, et en ayant la conviction que ce positionnement-là, à distance, peut être utile aussi aux juristes.
Alors d'ailleurs, vous commencez par deux avis successifs, un avis aux juristes et un avis aux spécialistes de sciences sociales, pour les prévenir en quelque sorte de la manière dont vous allez essayer de trouver la bonne distance. L'avis aux juristes, c'est juste pour leur rappeler que le point de vue interne du droit n'est pas acceptable, qu'on doit pouvoir regarder le droit de l'extérieur, et le point de vue aussi des sciences sociales, peut-être vous pouvez le développer aussi, c'est important, c'est de prendre garde finalement à ne pas réduire le droit à un instrument de domination politique, ce qu'ont eu tendance à faire, alors parfois de manière très caricaturale, des sociologues marxistes, et puis de manière plus sophistiquée, un sociologue dont vous avez été proche, Pierre Bourdieu, mais que vous critiquez à certains égards pour un certain type de rapport au droit, Jacques Comaille.
Oui, tout à fait. Je crois que les sciences sociales ont pêché pendant... C'est d'ailleurs tout à fait... C'est surprenant, j'en suis moi-même encore tout à fait stupéfait, empêchés par ignorance du droit, ou volontairement ignorance du droit. La sociologie, parce qu'elle était très influencée effectivement par le marxisme et qu'il y avait une sorte de disqualification a priori du droit comme objet de recherche. Les sciences politiques, alors de façon, on va dire, encore plus étonnante, puisque c'était un débat d'abord, un conflit institutionnel. Tout le problème des sciences politiques
c'était de se libérer du droit.
S'autonomiser des facultés de droit, et donc de la Sciences Po s'est créée, je dirais, par une prise d'indépendance par rapport aux facultés de droit, et ils ont transposé ce conflit institutionnel avec une argumentation sur un registre épistémologique. Alors là, on n'a aucun intérêt, puisqu'il ne parle que de lui-même, enfin, et il ne dit rien sur le politique. Donc je crois qu'effectivement, cette perspective de sciences sociales est importante. Je suis particulièrement heureux, et si parfois on fait un bilan, mais j'ai encore de l'avenir, mais si on fait un bilan de sa carrière, particulièrement heureux d'avoir pu former des jeunes collègues.
Oui, parce que maintenant, il y a une génération quand même.
Il y a toute une génération.
De gens qui travaillent sur le droit.
Absolument, qui travaillent sur le droit dans cette perspective-là, et qui est reconnue d'abord par les institutions
académiques. Je peux penser à Laura Israël, Antoine
oui.
Gaucher, enfin beaucoup de gens qui...
Oui,
qui...
absolument, oui, il y en a. Et la plupart sont rentrés parce que, curieusement, eux ont compris qu'il y avait en quelque sorte un marché intellectuel qui n'avait pas été investi pendant très longtemps. Ils sont entrés relativement facilement dans les institutions académiques et ils assurent le relais, ils l'assurent de façon remarquable et avec un point qui est très important, c'est on ne peut plus travailler sur le droit dans une perspective nationale, il faut travailler sur le droit dans une perspective internationale. Parce que une des grandes caractéristiques que j'évoque dans mon livre, à partir de la question de l'espace, c'est le changement des territoires, le changement de nature des territoires, la relativisation du territoire national quand on réfléchit sur le droit.
Alors ça, c'est les deux points sur lesquels je voulais qu'on vienne, Jacques Commin, et la question du temps et la question de l'espace qui structure aussi votre réflexion sur la place du droit et la possibilité donc pour sortir de la vision classique et limitée de certains types de sciences sociales qui considèrent le droit comme simplement un instrument de domination du pouvoir, parce que vous critiquez Bourdieu, je l'ai dit, mais aussi beaucoup un autre auteur qui a une influence décisive encore aujourd'hui sur ces questions, qui est Michel Foucault, et qui nous invite à finalement souvent ne voir le droit que dans cette perspective de domination, de biopolitique, de biopouvoir, etc. Là où la dimension de, pour reprendre un autre concept qui peut s'appuyer aussi sur la pensée de Foucault, d'empowerment est également importante, c'est-à-dire que le droit, et vous insistez beaucoup là-dessus, est aussi une ressource pour les plus faibles parmi les citoyens et pas uniquement un instrument de coercition pour l'État ou les autorités politiques en général.
Tout à fait, oui, c'est un point important, je crois que j'ai essayé de mettre en valeur dans le livre en parlant d'un modèle de l'égalité duale. C'est-à-dire la conception, qui est la représentation dominante encore dans l'univers juridique d'un droit qui est un droit comme une raison avec un R majuscule et un D majuscule, c'est l'idée qu'il y a une autre représentation du droit et qui est d'ailleurs présente dans l'histoire de la pensée juridique elle-même, c'est d'un droit dans la société, immergé dans la société, connecté à la société, produit, activé par la société. Et cette deuxième face de mon modèle de l'égalité duale ouvre la voie à toute une réflexion sur les possibilités de mobilisation du droit par la société elle-même, par les citoyens, par les forces qui composent la société, par les mouvements, les mobilisations collectives qu'elle est capable de générer. Et je crois que c'est une conception très importante et qu'il faut en même temps mettre dans une perspective, effectivement, de changement de territoire supranational, c'est-à-dire comment, au niveau supranational, les mouvements sociaux sont en mesure, effectivement, d'utiliser le droit comme ressource pour poser la question, notamment, de l'ordre politique et d'un ordre politique qui ne serait pas, ou n'y aurait pas simplement une primauté de l'économique sur le politique, mais où on se reposerait la question de la mise en œuvre de l'idéal démocratique.
C'est probablement une perspective qu'il a été plus difficile de mettre en œuvre dans un pays comme la France où le droit reste quelque chose de très centralisé, avec aussi cette spécificité qui veut qu'il y a d'un côté du droit privé, du droit public, et puis que on est face à un droit qui repose sur la loi, son application par le juge, et qui, de ce point de vue, est assez différent d'autres traditions juridiques qui, elles, reposent sur les cas. Je pense en particulier au droit
anglo-saxon. Ce que je parle de la dichotomie qu'on trouve dans la common law, c'est-à-dire le droit des livres et le droit en action. Et nous, on est très marqué par un droit des livres, par le droit comme référence. Et là, rien ne le montre mieux que la mythologie des codes. Hein. La célébration du 200e l'anniversaire du Code civil à laquelle j'ai été invité à participer, c'était en quelque sorte une célébration de la Constitution sociale de la France. Donc, et là, il y a une conjugaison entre une mythification du droit, une mythification de l'État, d'un État central.
Et des textes, parce qu'on peut même faire une référence à l'actualité, ce débat un peu étrange autour de la constitutionnalisation, par exemple, de l'État d'urgence, une chose qui n'aurait aucun sens en Grande-Bretagne, par exemple.
Non, Royaume-Uni. Absolument. Où là, dans la tradition de la common law, c'est l'expérience, quoi. C'est ce qui se passe réellement dans la société. C'est la façon dont on pratique le droit qui importe, et pas constamment la référence au droit des livres et aux références quasi. Le mot que j'emploie parfois, c'est le mot de transcendance. Il y a quelque chose dans la conception française du droit, quelque chose qui reste encore de l'ordre du religieux. Dominique Chappin en parle très très bien d'ailleurs dans son dernier livre sur cette effectivement conception quasi théologique du droit et des mises en œuvre du droit que vous avez aussi avec les palais de justice.
Alors, pour autant, la globalisation dont vous parlez, le changement d'échelle de territoire, finalement la dissémination du droit, la possibilité de recourir au droit par des individus, des citoyens, des entités qui ne sont pas les autorités publiques, ne règle pas, pour autant, il faudrait pas en avoir une vision naïve de ce phénomène, la question de l'asymétrie, de la domination qui peut exister. Parce que si le droit n'est plus uniquement l'apanage des autorités politiques, légitime, étatique, il peut néanmoins être accaparé de façon très asymétrique par des acteurs économiques extraordinairement puissants qui vont avoir les moyens, par exemple, de mettre en œuvre des actions juridiques qui coûtent beaucoup d'argent parce qu'il faut mobiliser des spécialistes, des conseils. On voit bien ce qui se passe, par exemple, dans le monde américain où les grosses entreprises ont ces moyens juridiques et face à elles, les groupes de citoyens peuvent s'organiser, mais c'est parfois difficile.
Vous avez tout à fait raison. Je crois que là, il faut pas dire vous avez à plusieurs reprises abordé la question de la critique que je fais des usages du paradigme de la domination. Quand je fais cette critique, je critique le côté trop unilatéral, en quelque sorte, de l'usage de ce paradigme dans l'œuvre de Pierre Bourdieu quand il parle du droit, et dans l'œuvre de Foucault quand Foucault parle aussi du droit, puisque tous les deux, en quelque sorte, associent d'abord principalement le droit comme un instrument de domination.
Monopole de la violence symbolique même,
oui,
jusqu'à dire Pierre Bourdieu, en ajoutant quelque chose à Max Weber.
Le grand progrès du point de vue de l'analyse que fait Bourdieu, c'est justement de travailler l'aspect domination symbolique par rapport à l'analyse marxiste.
Weberienne.
Ou Weberienne, absolument. Donc, simplement, ce que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que là, ce que je dis, c'est qu'il y a un enjeu extraordinaire. C'est-à-dire quand on est dans une perspective supranationale, vous avez là-bas, il faut prendre en compte le fait que potentiellement le droit peut être un instrument de résistance par des mobilisations sociales de mouvements collectifs au niveau supranational, et on le voit dans le domaine, par exemple, des entreprises, des multinationales. Il peut être un instrument de mobilisation pour le lapsus, dans le domaine de l'environnement et l'écologie, on l'a vu encore récemment, mais en même temps, il est aussi susceptible d'être une ressource pour des opérateurs économiques qui sont des acteurs puissants et qui sont en mesure d'instrumentaliser effectivement le droit à leur service par rapport aux objectifs qu'ils poursuivent, qui sont les objectifs de maximisation du profit. Et là, il y a des très belles analyses d'Alain Supiot, sur la Convention de Philadelphie, où il montre très très bien, il parle de law shopping, c'est-à-dire cette capacité qu'ont des acteurs économiques, effectivement, à aller faire leur marché au niveau international pour trouver le meilleur système de droit et le meilleur système de justice qui va être conforme à l'optimisation de leurs propres intérêts. Donc, je suis pas dans l'angélisme, en l'occurrence, et je pense qu'il y a effectivement de la domination encore, mais en même temps, tout le livre, je crois que je m'engage passionnément dans l'idée qu'il faut redonner un sens au droit, qui doit le faire du droit aussi un instrument de la démocratie.
Alors pour ça, il y a un chaînon peut-être entre le monde du droit et les citoyens qui est décisif, c'est celui des intermédiaires et en particulier des médias, parce que sans publicisation de ces débats juridiques, de ces décisions juridiques, il est extrêmement difficile pour les citoyens d'être au courant des ressources dont ils pourraient disposer. C'est le problème de l'accès à l'information qui est important, et comme je le notais en début d'émission, on peut être frappé par le fait que finalement les médias ne sont pas toujours très très attentifs, ne prennent pas toujours la mesure de l'importance de certains événements qui surviennent dans l'univers du droit. Je prenais l'exemple de cette protestation des plus hauts magistrats français. Ça me semble un événement considérable qui n'a pas été tellement mis en exergue par les médias. De façon plus générale, on constate un rapport au droit un peu étrange des médias, comme s'il s'agissait simplement d'annoncer des décisions magiques. Alors j'en veux pour preuve la façon dont a évolué le traitement des décisions, par exemple, du Conseil constitutionnel, qui sont aujourd'hui pourtant beaucoup plus importantes par les QPC notamment. Mais il y a encore 20 ans, dans un journal comme Le Monde, il y avait un journaliste chargé d'analyser les décisions du Conseil constitutionnel, et à chaque décision, il y avait une analyse juridique qui permettait à un citoyen non spécialiste de comprendre pourquoi la décision avait été prise en ce sens. Aujourd'hui, on s'en tient au résultat de la décision, et jamais les argumentations juridiques ne sont proposées en partage, je dirais, à ceux des citoyens qui essayent de comprendre un petit peu le monde dans lequel ils évoluent.
Oui. Weber disait la légalité est la condition d'établissement de la légitimité du politique. Alors, je crois que l'élément nouveau, c'est de dire maintenant, il faut repenser les conditions de production de la légalité. Et ça veut dire il faut repenser la possibilité pour les citoyens d'être associés à la construction et à la mise en œuvre de la légalité. Et vous avez raison, il y a un vrai travail, c'est un enjeu considérable, il y a un vrai travail de sensibilisation des citoyens, et ça passe par les médias, ça passe probablement aussi par d'autres façons, d'autres modalités d'associer les citoyens à la formulation des normes juridiques.
Passe aussi sans doute par la socialisation, l'école.
Oui,
alors, parce qu'on n'apprend pas vraiment ce qu'est le droit à l'école.
Là, la question est souvent posée. Et moi, pourquoi pas, effectivement, un enseignement du droit à l'école comme on enseigne
l'économie.
Et parce que je crois que là, il y a un enjeu très très important de restaurer une croyance dans le droit, et donc une adhésion dans le droit, et de l'importance du droit pour l'établissement et la préservation de la démocratie. Donc nous sommes citoyens tous concernés, et là il y a un vrai problème, effectivement. Il y a d'ailleurs des recherches au niveau international qui portent sur presque des recherches de laboratoire, où on essaie dans certains domaines, effectivement, d'associer, je pense à une recherche européenne en particulier, un livre sur droit et démocratie, qui résulte effectivement d'une recherche européenne, où on essaie d'associer les citoyens à des formes de création de la norme juridique.
Il y a aussi toutes les démarches qui s'inspirent de ce qui se fait aux États-Unis comme des cliniques du droit.
Hein. Oui,
je sais que l'URA Israël, par exemple, mène des projets dans ce genre-là qui permettent aux citoyens ou aux associations de venir consulter des juristes dans une démarche qui n'est pas tout à fait la même que celle d'un client par rapport à un avocat.
Oui, mais ce que montre très très bien, il y a un auteur, Michael McCann, qui a créé un livre de référence qui s'appelle Rights at Work, et qui travaille sur une grande campagne qui a eu lieu aux États-Unis sur Pay Equity, donc comment les salaires des femmes doit être égaux au salaire des hommes à travail égal. Et ce qu'il montre très très bien, c'est que le fait d'avoir pu mobiliser des femmes sur des questions de droit entraîne à bien plus qu'un effet de... Elles ont obtenu des avantages. Il y a un effet de conscientisation sur l'importance du droit comme ressource, effectivement, pour assurer, par exemple, le respect d'un principe d'égalité qui est au fondement de la démocratie. Donc, effectivement, je crois qu'il y a, si vous voulez, c'est ce que j'appelais cette deuxième phase du modèle de l'égalité. Il faut la travailler et faire en sorte que, effectivement, les citoyens retrouvent une proximité avec la norme juridique, avec le droit, voilà, dans le sens de, effectivement, de concourir, pour concourir à la réalisation de l'idéal démocratique que j'appelais de mes voeux tout à l'heure.
Alors vous disiez, pour vous en féliciter tout à l'heure, que quand même depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a toute une génération dans les sciences sociales qui s'est emparée de cet objet droit pour apporter de nouvelles recherches. En revanche, s'agissant du monde du droit, vous avez cité le doyen Carbonnier, mais enfin, ça remonte à il y a un moment. Est-ce que on observe quand même dans cet univers professionnel du droit une curiosité, une ouverture d'esprit à l'égard des sciences sociales qui n'existait pas, ou est-ce que ça reste quand même un monde assez confiné et convaincu du fait que le droit est le plus légitime pour parler du droit ?
Alors, vous savez, je fonctionne souvent avec le précepte de Gramsci, quoi, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et donc, à la fois, je crois qu'il y a encore un grand conservatisme dans les facultés de droit, qui est probablement dominant. En même temps, je trouve que les choses bougent. Les choses bougent, et notamment, je vois ça avec des collègues en faculté de droit qui sont dans des statuts intermédiaires, des maîtres de conférences. Je dirais même, je dis souvent ça à mes collègues, ça les amuse, mais c'est des femmes qui sont maîtresses de conférences et qui bougent, c'est-à-dire qui vont organiser des colloques sur l'interdisciplinarité, qui vont concevoir des colloques sur aux frontières du droit, qui donc posent le problème effectivement de au-delà de l'univers juridique et de l'intérêt de collaborer avec les sciences sociales. Donc je crois que les choses bougent et c'est là-dessus que je me suis un peu appuyé sur mon livre, c'est-à-dire on ne peut plus comprendre ce qui se passe dans la pratique du droit si on ne met pas le droit en contexte. Et on ne peut le mettre en contexte que si on collabore avec les sciences sociales. Alors je crois que l'autre enjeu aussi, c'est de dépasser les anathèmes réciproques. C'est-à-dire qu'il y a eu des combats farouches entre les juristes et les chercheurs de sciences sociales. Moi, ma conviction profonde, qui n'est pas toujours partagée d'ailleurs par mes collègues du côté des sciences sociales, c'est qu'il faut qu'on pense à de nouvelles collaborations entre les sciences sociales et le droit du côté de gens qui travaillent en théorie du droit, qui ont actuellement une vive conscience de ces mutations des sociétés qui pèsent sur le droit et qui sont demandeurs effectivement de collaboration. Je crois qu'il y a un dépassement à opérer par rapport au vieux clivage qui existait dans la production des savoirs sur le droit.
Alors c'est un peu par exemple ce que fait une revue dont on a salué la naissance ici, qui est Grief, oui. Animée par Olivier Keila.
Oui, tout à fait.
Et on a là des juristes qui essayent d'être en dialogue permanent avec toutes les disciplines des sciences sociales.
Tout à fait. Et c'est très frappant. Alors on retrouve ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire quand même la spécificité de la France. Il y a des mouvements très novateurs en Belgique, au Québec, où on est moins marqué effectivement par les mythifications dont je parlais. Et il y a des courants de théorie du droit qui sont extrêmement intéressants, comme à Bruxelles, par exemple, un livre qui est sorti d'une longue réflexion sur la globalisation qui entraîne une nécessité de repenser complètement les fondements, les principes du savoir de théorie du droit. Même chose à Montréal, et j'ai des collaborations, j'ai enseigné à l'Université Saint-Louis à Bruxelles pendant très très longtemps, et en cas de la matière européenne, et là il y a une ouverture d'esprit. C'est des universités dans lesquelles il y a plus d'enseignement en première année non juridique que d'enseignement juridique.
Merci beaucoup Jacques Comaille. Je rappelle les références de ce livre publié directement, texte inédit dans la collection Folio, texte très accessible et passionnant pour comprendre ces transformations de la place du droit dans la société et comment le droit est une ressource. À quoi nous sert le droit? C'est son titre. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture, page où vous pouvez réécouter l'émission en streaming ou vous pouvez également, c'est sans doute la meilleure solution, choisir de vous abonner au podcast. Vous pouvez retrouver les programmes de la suite dans les idées également sur la page Facebook de l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Bruno Mourlan, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Dans quelques instants, c'est Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.